Europe Matin. Omblin Roche, Julien Pierce.
Bonjour à toutes, bonjour à tous.
Et bienvenue sur Europe 1. On est de tout cœur avec vous à 4h56. N'y voyez pas de malice, mais quel plaisir de vous réveiller de si bon matin sur Europe 1.
Avec d'emblée une nouveauté à vous faire écouter.
Si tu veux payer un verre, tu pourras, si tu veux, me raconter ta vie, en faire une épopée, en faire un opéra. J'entrerai dans ton jeu, je saurai sans effort me mettre à ta portée.
Vous découvrez ici le tout nouveau Renaud, sa version de « Si tu me payes un verre » de Serge Reggiani, premier extrait de son futur album baptisé Métèque.
Il reprend, dit-il, 13 vieilles chansons françaises qui l'ont marqué. Rendez-vous le 6 mai pour la sortie de l'album. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 31 mars dans l'actualité, Julien.
La vie chère, de plus en plus chère. Les chiffres de l'inflation pour le mois de mars seront dévoilés ce matin et après une hausse des prix à la consommation de 3,6% en février, on s'attend là à dépasser la barre des 4%, ce qui comparativement à nos voisins est plutôt un bon résultat.
Oui, parce qu'en Espagne, l'inflation approche les 10% ce mois-ci, 7,6% en Allemagne.
Du jamais vu depuis plus de 40 ans. L'inflation galopante est donc de retour. Reste à savoir jusqu'à quand, quel impact sur la croissance et puis que faire de nos économies pour ne pas les voir fondre comme neige au soleil. Faut-il rester prudent, livré à immobilier ou prendre des risques?
On va poser toutes ces questions à notre invité à 6h10, l'économiste Philippe Crevel, directeur du Cercle de l'Épargne.
C'est une nuisance quotidienne pour bon nombre d'entre nous, le démarchage téléphonique abusif.
Et bien à partir de demain, parmi les nouvelles règles qui entreront en vigueur, les appels des compagnies d'assurance seront encadrés de façon plus stricte.
Le démarcheur devra par exemple décliner clairement son identité, préciser le caractère commercial de l'appel et s'assurer que vous êtes d'accord, c'est quand même pas mal, pour se poursuivre la conversation.
Voilà comment éviter les abus, quelles précautions à prendre pour ne pas signer un contrat à votre insu. On y reviendra plus en détail à 5h45 avec Ariel Delins de la CPR, c'est l'instance administrative qui veille notamment à la protection des clients, des banques et des assurances.
Et votre partition pour conclure cette petite matinale.
Depuis 1986, cette chanson a inspiré de nombreux artistes, que ce soit dans le rap, le jazz ou la variété. That's just the way it is. Some things will never change. La partition de The Way It Is, signée Bruce Hornsby, rendez-vous à 6h20.
Soyez tous les bienvenus, vous avez l'essentiel du programme. On commence avec la météo. Bonjour Anissa Haddadi.
Bonjour Julien, bonjour Ombine.
Bonjour.
Alors, le dicton du jour, à la Saint-Benjamin, le mauvais temps prend fin. Je crois que, décidément, dicton.com a tout
faux. Non mais là, arrêtez on est tout. Ou alors on les réécrit. À la Saint-Benjamin, c'est le début de la fin. On peut les réécrire, les dictons. Parce qu'aujourd'hui, c'est la journée dont on parle depuis le début de la semaine, cette fameuse journée
de la neige.
Et voilà, ça y est, elle est là. Alors, c'est une nouvelle journée de changement aujourd'hui, puisqu'on va vraiment là basculer dans la phase hivernale de cette fin de semaine, avec une nouvelle baisse des températures, l'arrivée de la neige sur les Hauts-de-France et la Haute-Normandie pour ce début de journée. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que sur ces deux régions du Nord, on va avoir des averses fréquentes comme sur les trois quarts de la France, mais en plus de la pluie vous aurez des petits flocons qui vont virevolter dans le ciel. Alors il y a une chose dont on n'est pas sûr, c'est la tenue au sol. Est-ce que cette neige va tenir au sol? Il y a quand même une grande chance que ça ne tienne pas parce que les sols sont chauds, parce qu'on vient d'avoir des températures à plus de 20 degrés, donc les sols sont chauds. Mais on pourrait avoir quand même des vallées qui blanchissent de parts et là. Alors ça va surtout concerner le nord de la France et le Grand Est. Alors au nord de la Loire, entre la Bretagne et la Champagne, en passant par la région parisienne, on a un ciel très nuageux avec des giboulées toute la journée. La neige arrive sur la région parisienne la nuit prochaine. Sur les Vosges, le Jura, la Lorraine, les orages éclatent en fin de journée. Et puis on a de la neige sur les Alpes, les Pyrénées. Évidemment, Mistral et Tramontagne se lèvent dans le sud et ça souffle fort, hein, plus de 80 km/h. Ce matin, on a 5 degrés à Paris, Rennes et Clermont-Ferrand, 8 à Bordeaux, 10 à Nice, 11 à Ajaccio. Cet après-midi, ça baisse bien, couvrez-vous. 7 à Dunkerque, 8 à Paris, hier on en avait 15, 11 à Limoges, 14 à Lyon et 19 pour Marseille.
Le début de la fin de la météo. Merci beaucoup Anissa Haddadi. Très bon réveil à tous à l'écoute d'Europe 1. Il est tout juste 5h.
Les Russes utilisent tout ce qu'ils ont, de la calache à l'artillerie lourde. Ils ne savent pas quoi faire ni comment. Ils essaient de trouver des issues dans différentes directions, mais n'ont nulle part où aller.
Des soldats russes désemparés qui tentent le tout pour conserver leur position autour d'Irpine. La ville en banlieue de Kiev est repassée sous contrôle ukrainien il y a deux jours. Le reportage dans un instant de notre envoyé spécial en Ukraine. On l'appelle déjà le McKinsey Gate, le caillou, si ce n'est le rocher, dans la chaussure d'Emmanuel Macron à 10 jours du premier tour. Son clan se mobilise pour éteindre la polémique autour du recours massif dans les ministères, au cabinet de conseil. Et puis l'épidémie de Covid, c'est pas fini. Mais les centres de vaccination, si, dans quelques semaines, il n'y en aura plus aucun en France, est-ce trop tôt pour les fermer? Nous vous avons posé la question.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Le premier journal de ce jeudi 31 mars vous est présenté par Alban Leprince. Bonjour Alban.
Bonjour à tous. La guerre en Ukraine et le scepticisme de l'Elysée à cette annonce du ministère russe de la Défense. Un cessez-le-feu à partir de 9h ce matin dans la ville assiégée de Mariupol pour évacuer des civils.
Et du côté de Kiev, à Irpin, désormais contrôlée à 100% par l'armée ukrainienne, selon le maire de la ville.
Ce qui met les Russes sous pression. Hein. Ils veulent à tout prix garder l'accès aux routes du nord-ouest menant vers la Biélorussie. Alors pour se défendre, tous les moyens sont bons. Une pluie de bombes s'abat depuis 48 heures dans tout le secteur pour garder le contrôle de la zone et empêcher les Ukrainiens de progresser. Le reportage de notre envoyé spécial européen à Kiev, Nicolas Tonev.
Un bon combat, c'est lorsque les deux adversaires avancent et reculent et se vantent de leur réussite.
Du sang-froid sous le pont détruit d'Irpin, une minute de répit, un chef des forces spéciales ramène du front une bonne nouvelle.
On a repris la ville de Stoyanka, c'est officiel, elle est nettoyée, elle est aux forces ukrainiennes.
Une avancée pour affaiblir les Russes vers l'ouest, une situation qui se résume en un son.
Depuis ce matin, ça balance comme ça. Les Russes utilisent tout ce qu'ils ont, de la calache à l'artillerie lourde. Ils ne savent pas quoi faire ni comment. Ils essaient de trouver des issues dans différentes directions, mais n'ont nulle part où aller. Et dans la panique, ils arrosent.
Les déflagrations se succèdent à un rythme infernal. L'un des commandants d'unité résume à sa façon.
Aujourd'hui, ce qu'il se passe dans cette région, autour d'Irpin, relève du casino. On joue avec les Noirs ou on joue avec les Blancs. Dans une telle situation, tu ne peux pas deviner où le sort ira. Et ici, tu ne maîtrises rien. Mais une chose est certaine, il n'y aura pas d'entre-deux.
C'est peu dire. Alors que sous le pont brisé d'Irpin, l'on ne s'entend plus parler, les plus rageurs promettent de poursuivre l'ennemi jusqu'à sa capitale. À Irpin et en banlieue de Kiev, Nicolas Tonev, Europe 1.
À Tchernigiv, dans le nord de l'Ukraine, les bombardements n'ont pas cessé. Moscou avait pourtant promis de réduire radicalement son activité militaire sur place. « Nous ne croyons personne », a déclaré dans la soirée Volodymyr Zelensky, le président ukrainien.
On revient en France à 10 jours du premier tour. C'est la polémique dont se seraient bien passées les équipes du candidat Macron, l'affaire des cabinets de conseil.
Et plus particulièrement, McKinsey, des contrats à plusieurs centaines de millions d'euros qui parasitent la campagne du président candidat. On parle déjà d'un McKinsey Gate. Le camp Macron se mobilise et tente d'éteindre l'incendie. Exemple hier avec Bruno Le Maire, ministre de l'économie, qui était l'invité d'Europe 1.
On n'a pas de leçon à recevoir, Sonia Mabrouk.
C'est une question.
De qui que ce soit.
Est-ce que vous avez fait des concessions fiscales
en matière de lutte contre l'optimisation fiscale? Nous avons engagé une vérification fiscale sur McKinsey, pour être tout à fait précis, avant le rapport du Sénat.
Alors on vient d'entendre Bruno Le Maire, invité d'Europe 1 hier matin, et dans la soirée, le ministre du Budget Olivier Dussopt et la ministre de la Fonction Publique Amélie de Montchalin ont tenu une conférence de presse. Là aussi, objectif Arthur Delaborde, mettre fin à la polémique.
Oui, l'opération déminage a duré plus d'une heure et demie. D'emblée, Amélie de Montchalin a dénoncé les fausses informations propagées par les adversaires d'Emmanuel Macron, assumant aussi s'être appuyée sur des cabinets de conseil, en particulier pendant la crise sanitaire.
Oui, comme tous ceux qui nous ont précédés, et dans le cadre strict des règles de la commande publique, nous avons eu recours à des cabinets de conseil. Mais est-ce que, oui ou non, l'État lésine sur les moyens quand il s'agit de protéger les Français? La réponse est non.
C'est en effet près de 894 millions d'euros de dépenses qui ont été consacrés au cabinet de conseil l'année dernière, a reconnu pour sa part Olivier Dussopt, promettant de diminuer d'au moins 15% le recours à ces cabinets dès cette année. Le ministre du Budget a également minimisé le poids de McKinsey, devenu le symbole du scandale.
En 2021, les dépenses de l'État facturé par McKinsey, représente 5% des dépenses de conseil en stratégie de l'État français.
McKinsey, qui n'aurait pas payé d'impôts en France depuis au moins 10 ans, interrogé sur le sujet, Olivier Dussopt s'est contenté d'invoquer le secret fiscal.
Arthur Delaborde.
Et dans 10 jours, il sera possible d'aller déposer son bulletin dans l'urne, même en étant positif au Covid.
Et oui, le gouvernement a dévoilé hier le protocole sanitaire retenu pour les scrutins des 10 et 24 avril. Le masque reste fortement recommandé, mais pas obligatoire. Pas de
jauge à respecter ni passe sanitaire à présenter.
Des règles pour le moins souples alors que l'épidémie connaît un rebond, encore 169 000 cas enregistrés hier.
Oui, et paradoxalement, les derniers centres de vaccination ferment. Dans quelques semaines, impossible d'en trouver un. Une question se pose donc, est-ce le bon moment pour les fermer ? Thibaut Hu s'est rendu dans le centre du 6e arrondissement de Paris pour ses derniers instants.
Et voilà, du coup, vous étiez notre dernier patient.
Une dernière piqûre et puis s'en vont. Les soignants retirent leurs blouses et soufflent. Terminé le centre de vaccination. Mais les derniers patients sont très étonnés, comme Marie-Claire qui remonte ses lunettes.
J'étais un peu surprise qu'on a besoin de se faire vacciner, que c'est plus simple de venir dans la mairie qu'ailleurs dans une pharmacie où il faut prendre rendez-vous. Je trouve que c'est trop tôt pour fermer.
Trop tôt aussi pour Elsa, venue pour sa troisième dose. Elle craint la remontée des cas.
Le Covid n'est pas mort, hein. Enfin, on va pas non plus... Faire comme si il n'existait plus.
Les prochains patients iront chez leur médecin ou dans une pharmacie. Des patients qui étaient de moins en moins nombreux et le temps semblait un peu long pour les soignants comme Antoine.
On voit les vaccinations vont réduire. Petite remontée là avec les 80 ans et la quatrième dose. Il y a eu des moments très creux. Oui.
Et le responsable du centre, le docteur Marc Jaconot, le confirme, c'était le bon moment de fermer.
On voit que le variant Omicron est quand même moins virulent. Il faut toujours rester très prudent. Peut-être que dans 15 jours, on va avoir des chiffres qui remontent très très haut et des hospitalisations, des décès. Et l'épidémie ne nécessite plus qu'on vaccine toute la population.
Et au cas où, prévient le médecin, les ordinateurs et une partie du matériel restera sur place pour une éventuelle réouverture.
Thibaut Hu et l'Organisation mondiale de la santé plutôt pessimiste. Elle envisage l'apparition cette année d'un nouveau variant encore plus virulent que ceux qui ont déjà fait plus de 6 millions de morts dans le monde.
On termine ce journal avec ce tremblement de terre à Hollywood.
Ouais, l'acteur Bruce Willis, connu pour ses rôles dans Die Hard ou encore Le Cinquième Élément, contraint de mettre fin à sa carrière pour des raisons de santé. Une annonce qui a eu l'effet d'une bombe publiée sur les réseaux sociaux. Explication de notre correspondante à Los Angeles, Aviva Fried.
Notre cher Bruce a récemment été diagnostiqué comme souffrant d'aphasie. Par conséquent, Bruce abandonne cette carrière qui a tant compté pour lui. Ce message, c'est celui publié sur Instagram par la fille de Bruce Willis, rumeur. Il est signé par la femme de l'acteur, Emma, par Demi Moore, son ex-femme, et par ses 5 enfants. Il accompagne une photo prise il y a quelques années, en peignoir, avec une serviette sur la tête et des lunettes de soleil sur le bout du nez. L'acteur arbore ce petit sourire en coin qui a fait chavirer tant de fans. Bruce Willis, malade, est donc forcé à 67 ans de mettre un terme à sa carrière. Ses succès comme Piège de cristal ou Le Sixième Sens lui ont permis de devenir l'un des acteurs les plus connus d'Hollywood, même si sa carrière s'était essoufflée ces dernières années avec une série de navets, n'ayant même pas eu droit à des sorties au cinéma. L'annonce de cette retraite forcée a bouleversé aux États-Unis, faisant même passer temporairement au second plan l'histoire sans fin de la gifle de Will Smith. Les fans et les célébrités ont affiché leur soutien. « Bruce, on t'aime tellement, tu nous as tant donné. » Des messages d'amour, des prières et beaucoup de respect pour une star qui compte plus de 100 films à son actif. À Los Angeles, Aviva Fried, Europe 1.
Et Bruce Willis doit tout de même apparaître dans plusieurs films cette année, dont Saul, Assassin ou encore White Elephant.
Merci beaucoup Alban Le Prince pour ce journal.
5h08, les courses de Thierry Léger, le pari gagnant. Bonjour Thierry.
Bonjour Omblin, il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome de Chantilly et mon pari gagnant sera le 509 Vespaman. Il effectuera un long déplacement depuis le sud-ouest, plus précisément la Teste, jusqu'à Chantilly avec de solides arguments. Il reste en effet sur 3 secondes places, obtenues dans des handicaps d'un niveau similaire à celui de cet après-midi. Et comme le profil de l'hippodrome de Chantilly, qui lui a déjà bien réussi, ne pourra que l'avantager, il devrait une nouvelle fois terminer à coup sûr à l'arrivée. Notez bien, pour Chantilly, réunion 1, dans la 5e course, le numéro 9, Vespaman.
C'est noté, merci beaucoup Thierry Léger, et on vous retrouve dans une demi-heure pour les pronostics du Quintet.
Omblin Roche et Julien Pierce sur Europe 1.
On ouvre les portes du pressing 3 histoires lues dans la presse ce matin et nous sommes avec Martin Lange. Bonjour.
Bonjour Martin. Bonjour Julien, bonjour à tous.
Les unes de vos journaux et cette question que pose l'opinion présidentielle. Jusqu'où ira Marine Le Pen ? Elle est là, confirme toujours en une Libération, alors que dans les dernières enquêtes d'opinion, la candidate du RN a pratiquement retrouvé son niveau de 2017 quand elle avait obtenu 21,3% des suffrages et selon une enquête de l'IFOP, elle obtiendrait même 46,5% au second tour face à Emmanuel Macron. Jamais le score n'a été aussi serré. Les raisons d'un silence avec comme illustration Nicolas Sarkozy. C'est la une du Parisien aujourd'hui en France à 10 jours du premier tour. L'ancien président n'a toujours pas apporté son soutien à Valérie Pécresse et à la lecture de l'article, on comprend qu'il ne l'apportera pas. Et puis l'Europe dans le piège de l'inflation. C'est le titre à la une des Échos qui reviennent sur les hausses de prix stratosphériques chez nos voisins. Plus 9,8% ce mois-ci en Espagne, plus 7,5%. 7,3 en Allemagne. Voilà pour les unes. Omblin, quel article vous a tapé dans l'œil ce matin?
Un article ce matin du Parisien qui fait un coup de projecteur sur une association, la RPD, c'est-à-dire assistance et recherche de personnes disparues. En plus des forces de l'ordre, les bénévoles enquêtent à la demande des familles pour trouver un proche qui s'est volatilisé. Le Quotidien raconte par exemple l'histoire de cette fratrie qui n'a plus de nouvelles de l'un des siens depuis la fin du mois de décembre, après une discussion animée chez son beau-frère qui l'hébergeait en Seine-et-Marne. Eh bien, Mounir n'a plus donné signe de vie. Sa famille est tombée par hasard sur le site de la RPD en faisant des recherches sur Internet, la police ne donnant aucune nouvelle. Alors attention, l'association n'a pas la volonté de remplacer les autorités ni de marcher sur ses plates-bandes. D'ailleurs, certains de ses membres sont d'anciens gendarmes et commissaires de police. Il y a 230 enquêteurs au total en France, un réseau solide entre les régions. Quand on fait appel à l'association pour lancer des recherches, il faut régler une cotisation de 40 euros, la même que pour les bénévoles, signer une décharge, fournir des photos, les coordonnées des proches, mais aussi les numéros bancaires et de sécurité sociale de la personne qui a disparu, tous les éléments nécessaires pour établir un avis de recherche. En Ile-de-France, une quarantaine de familles a sollicité l'association l'an dernier pour retrouver une tante qui s'est échappée d'un hôpital psychiatrique, une sœur de 70 ans qui s'est éloignée de sa famille et qui est introuvable, ou une enfant qui s'est enfuie après le décès de son père. C'est l'histoire par exemple de Mehdi, aussi 42 ans. Pour sa sœur, ce n'est pas parce qu'il est majeur et sans abri que sa disparition n'est pas inquiétante. Alors, le bénévole qui tente de le retrouver fait le tour de l'Île-de-France, d'un hôtel social à un autre. Il cherche dans le quartier où il a ses habitudes. Et souvent, d'ailleurs, la RPD envoie les avis de recherche au SAMU social. Une femme a par exemple été reconnue lors d'une maraude. Alors, ce qui est vraiment plus difficile, c'est quand il faut se rendre à la morgue, avis de recherche sous le bras, afin de faire des recoupements entre les disparus et les morts sous X. La RPD est souvent le dernier espoir des familles, un soutien aussi dans les moments les plus difficiles. Ces bénévoles qui recherchent des disparus, c'est dans le Parisien.
Merci beaucoup, Omblin. Martin, à vous.
Oui, direction l'Ukraine ce matin où la guerre fait rage depuis maintenant 5 semaines et on parle beaucoup des difficultés russes. Hein. Vous avez tous vu ces images de chars abandonnés. Alors, problème logistique, problème d'approvisionnement. Eh bien, le Courrier international pointe une autre explication, la faiblesse des moyens de communication russes. C'est le quotidien britannique The Economist qui a émis l'hypothèse. Le premier, selon lui, cela expliquerait pourquoi les Russes paraissent si mal coordonnés, tombent dans des embuscades et déplorent autant de pertes, notamment chez les Léogradais.
Alors quel est exactement le problème avec les radios russes, Martin?
Eh bien, théoriquement, il n'y en a pas. Les Russes ont développé leur propre technologie ultra-moderne, des signaux cryptés qui changent de fréquence d'émission des milliers de fois par seconde pour éviter toute interception. Mais ça, c'est la théorie. En réalité, il n'y a pas assez de ces appareils pour équiper toutes les troupes. Du coup, sur le terrain, les militaires ont adopté le système D et ils ont acheté des technologies destinées au grand public, des talkie-walkie, voire même de simples smartphones. Et ça, c'est du pain béni pour les Ukrainiens, grâce au matériel fourni notamment par l'OTAN. L'armée de Volodymyr Zelensky intercepte la grande majorité des échanges russes et peut anticiper les manœuvres du Kremlin. Alors bien sûr, il y a une part de communication dans ces annonces côté Kiev, mais The Economist confirme que ces interceptions produisent des résultats très concrets sur le terrain. Et même quand le message est inaudible, les Ukrainiens ont une technique imparable. Ils bombardent les fréquences utilisées par les Russes avec du heavy metal. Là, c'est un groupe ukrainien que vous pouvez entendre. De quoi devenir fou, évidemment. Une technique qui a déjà été utilisée par les Américains face aux talibans en Afghanistan. Alors, les lacunes des systèmes de communication russes expliqueraient beaucoup de choses, selon le Washington Post. Le territoire ukrainien est immense, les troupes sont éparpillées. Et puis, faute de réseaux efficaces, cela oblige les généraux à se rapprocher au plus près des combats. Cela pourrait en partie expliquer que 7 généraux russes soient morts depuis le déclenchement de l'opération. Les radios sont peut-être moins mortelles que les armes, mais l'échec des Russes à investir dans leur réseau handicape leurs forces, conclut The Economist. En Ukraine, le heavy metal suffit à brouiller les radios des forces russes. C'est à lire dans le Courrier international et c'est passionnant. Ça, c'est du heavy metal... On connaît un peu plus. Voilà,
Motorhead.
C'est pas en ukrainien.
Non, c'est pas de l'ukrainien, c'est de l'anglais.
Bon, après, on fait pas vraiment la différence, vu la manière dont ils chantent.
Vous comprenez pas les paroles, Julien? Vous pensez que vous allez me traduire?
Non, je passe mon tour. Merci beaucoup, Martin. Bon, après le heavy metal qui brouille les radios de l'armée russe, je vous conseille pour ma part de lire cet article du Point sur ce qui brouille notre sens de l'orientation. Les amis, vous, pour aller d'un point A à un point B, vous êtes du genre Mike Horn, boussole dans la tête, capable de vous repérer à la position du soleil, soleil ou en examinant la mousse sur les arbres, ou vous êtes plutôt chauffeur Uber, totalement perdu quand son GPS ne répond plus. Ombline, Martin.
Ah non, mais moi, il ne faut pas me suivre. Il faut prendre exactement la direction inverse.
D'accord.
C'est une catastrophe.
Ouais, la mousse, c'est le soleil, je ne sais pas, mais j'arrive plutôt à me repérer.
Eh bien, je vous invite à lire cette étude franco-britannique passionnante qui vient d'être publiée dans la revue scientifique Nature. Selon des chercheurs de l'université Lyon 1 et leurs homologues de l'University College de Londres, notre capacité à nous orienter à l'âge adulte s'explique en grande partie par la topographie de l'endroit où l'on a vécu durant les premières années de notre vie. Les rues, les allées, les chemins et les parcs de notre enfance laissent en nous une trace indélébile aux conséquences insoupçonnées. Pour parvenir à cette conclusion, les scientifiques ont pu avoir accès aux données de 400 000 personnes originaires de 38 pays différents. Les données de leur performance à un jeu vidéo, Sea Hero Quest, c'est son nom, est un jeu gratuit sur mobile ayant été développé afin de permettre à des neuroscientifiques d'évaluer les capacités d'orientation dans l'espace, notamment afin d'identifier des signes précoces de la maladie d'Alzheimer. Le concept est très simple, vous incarnez un capitaine de navire à qui l'on propose toute une série de défis de navigation, on vous montre une carte, vous la mémorisez, et ensuite, ICO matelot, vous prenez la mer, objectif, arriver à bon port. Et pour s'assurer que les résultats ne soient pas biaisés par une pratique intensive de ce jeu vidéo, les chercheurs ont également demandé à une équipe de volontaires de se prêter à des exercices d'orientation dans les rues de Paris et de Londres, histoire de vérifier que leur performance dans le monde réel coïncidait bien avec celle obtenue dans le monde virtuel. Résultat, les personnes ayant grandi à la campagne ont un bien meilleur sens de l'orientation que les citadins d'origine, et ce, tout pays confondu. Un clivage particulièrement fort aux États-Unis et au Canada est nettement plus ténu chez nous en France, en Inde ou encore au Vietnam. La clé de cette subtile inégalité réside peut-être dans la physionomie des villes, car les scientifiques ont constaté des différences notables parmi les citadins. Ceux ayant grandi dans des villes au plan parfaitement quadrillé, comme Chicago, ont un sens de l'orientation moins bon que ceux ayant évolué dans des cités où le tracé des rues est, on va dire, plus chaotique, plus latin, typiquement Paris ou Marseille. Les ruraux ont un meilleur sens de l'orientation que les citadins, c'est-à-dire sur le site du Poix.
On a peut-être aussi moins l'habitude, enfant, de parcourir notre quartier quand on habite Paris, où on reste en fait dans notre coin, là, dans notre pâté de, sur notre pâté de maison. À la campagne, peut-être, on a plus l'habitude
de... Et puis, il y a moins de perspectives. On voit l'horizon à la campagne, on voit des montagnes, on voit des collines, des lacs.
C'est hyper
intéressant. Ce qui permet de nous orienter peut-être davantage que les rues tristounes, grisâtres de notre chère capitale ou autre.
On va tous se poser la question, où est-ce qu'on a grandi? Est-ce qu'on a le sens d'orientation? On va tous faire le lien, finalement. Merci beaucoup, Julien.
On sent que vous appréciez votre vie à Paris, en tout cas, Julien.
Ça fait plaisir, hein.
J'adore la capitale, c'est une très jolie ville. Mais bon.
Merci, Martin.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure, 40 minutes, dans 40 minutes, pour les sports.
Europe Matin.
Ombline Roche et Julien Pierce.
5h19 sur Europe 1, les principaux titres de ce jeudi, le journal permanent, Alban Le Prince.
Un régime de silence à Mariupol. Le ministère russe de la Défense annonce l'instauration d'un cessez-le-feu ce matin à partir de 9h, heure française. Objectif, évacuer des civils vers la ville ukrainienne de Zaporojye. L'Elysée se dit sceptique. C'est dans ce contexte que les Russes commencent à se retirer de Tchernobyl, selon le Pentagone. Retrait également constaté à l'aéroport de Gostomel, au nord-ouest de Kiev. Quand le Covid rencontre la présidentielle. Nous sommes à 10 jours du premier tour et le gouvernement a dévoilé hier le protocole sanitaire retenu. Pour les scrutins des 10 et 24 avril, il sera possible d'aller voter même en étant contaminé. Des pizzas surgelées Buitoni contaminées. Les autorités sanitaires ont établi une relation hier avec plusieurs cas graves de contamination par la bactérie Escherichia coli chez des enfants. Deux sont morts, mais le lien avec les pizzas n'a pas été confirmé à ce stade. 75 cas sont en cours d'investigation.
C'est à présent la chronique qui vous donne la parole, qui fait bouger les lignes, les initiatives en France.
Bonjour Louis de Gouillon-Matignon.
Bonjour monsieur.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le cofondateur de Gamma, une start-up qui veut développer un vaisseau spatial sans carburant ni moteur, mais avec une voile. C'est très sérieux, mais ça nécessite quelques explications. On vous écoute.
La voile solaire, c'est un type de propulsion qui est un type de propulsion à côté des types de propulsion existants, à savoir la propulsion dite chimique et la propulsion dite électrique. En gros, on déploie dans l'espace une super grande surface très réfléchissante et on va venir réfléchir le soleil. lorsque les photons vont venir frapper la voile solaire, petit à petit, notre sonde, notre satellite, n'est-ce pas, va être poussé d'un point A à un point B. Donc, en somme, c'est vraiment une technique de navigation avec la lumière du soleil qui ne nécessite pas d'embarquer du carburant. Donc, bien évidemment, ça révolutionne le transport spatial, en particulier sur longue distance.
C'est ce qu'on appelle la propulsion photonique, c'est ça ?
C'est exactement ça. On sert d'un concept qui s'appelle la pression de radiation. C'est la dualité onde-corpuscule, n'est-ce pas ? La lumière véhicule de l'élan. On va réfléchir cet élan et induire, imprimer sur l'ensemble de l'objet spatial une accélération. Et avec cette accélération, on va pouvoir naviguer d'un point A à un point B. Admettons que nous partions de la Terre. On est mis à poste avec une fusée. Cette fusée va nous larguer en général à 300, 400, 500, 600 km d'altitude. Une fois mis à poste, on déploie cette grande voile solaire qui fait à peu près une centaine de mètres carrés. Donc, il faut imaginer notre petit satellite qui fait la taille d'une boîte à chaussures.
Et puis, je précise pour nos auditeurs, ça ressemble un peu aux couvertures de survie déployées notamment par les pompiers.
Exactement. Ce sont les couvertures de survie que l'on voit dans les festivals ou quand il y a eu des accidents. C'est du Nylar, c'est du capton aluminisé, c'est du polyimide. C'est vraiment un plastique très, très, très fin et très, très réfléchissant qui va avoir pour objectif de réfléchir un maximum de lumière et donc de pouvoir imprimer encore une fois à l'objet spatial une accélération qui soit assez sérieuse pour pouvoir envisager des missions spatiales sur de longues distances.
On peut aller vite avec une voile solaire ?
Alors, théoriquement, c'est la forme de propulsion la plus rapide auquel on est aujourd'hui axé. C'est-à-dire que grâce à la voile solaire, on peut se rapprocher d'un pourcentage sérieux de la vitesse de la lumière. Alors bien évidemment, ça nécessite beaucoup, beaucoup de calculs, notamment de mécanique céleste. Et pour l'instant, ce n'est pas l'objectif de la société Gamma. Mais dans un moyen long terme, on envisage bien évidemment de pouvoir accélérer nos voiles. Mais pour l'instant, la voile solaire pousse un petit peu comme la propulsion électrique. Ça dépend bien évidemment de l'orientation de la voile face au soleil et surtout de la distance. Puisque vous savez que plus on s'éloigne du soleil, moins l'ensoleillement et donc moins la lumière est forte et donc moins la poussée est forte.
Donc si je comprends bien, ça commence doucement et ça accélère et ça n'en finit plus d'accélérer.
Exactement, on commence assez doucement et petit à petit, on va imprimer une accélération toujours plus forte, une poussée toujours plus forte pour que les auditeurs nous comprennent et ça va nous permettre de pouvoir réaliser des missions assez complexes. On peut aussi faire ce qu'on appelle des assistances gravitationnelles. On peut se servir de l'élan orbital autour d'un corps plus massif pour s'accélérer toujours plus. C'est-à-dire qu'on pourrait par exemple partir autour de la Terre et pour aller par exemple vers Jupiter, au lieu d'aller directement de la Terre jusqu'au système solaire externe vers Jupiter, n'est-ce pas, nous passerions autour du Soleil pour être vraiment accélérés avec cette espèce de catapulte orbitale et nous pourrions avoir accès à Jupiter en l'espace de quelques années contre 7-10 ans avec une propulsion plus traditionnelle avec un dernier étage de lanceur. Donc vraiment la voile solaire, c'est deux aspects fondamentaux. Numéro 1, c'est pas de carburant, donc des temps de mission qui peuvent être plus longs et donc des masses moindres envoyées dans l'espace. Ça coûte moins cher. Et enfin, si on regarde sur le moyen long terme, un vaisseau spatial qu'on peut accélérer à des vitesses qui ne sont pas encore atteintes par les types de propulsion que sont la propulsion chimique et électrique.
Mais comment vous faites pour diriger la trajectoire du vaisseau spatial ? Parce que si on veut que les photons tapent dans la voile, j'imagine qu'il faut aller dans le sens opposé du Soleil, non ?
Alors ça, c'est assez intéressant et c'est vraiment la question qu'on a souvent. Bien évidemment, ça paraît intuitif qu'il est plus facile de s'éloigner du Soleil, mais on peut aussi se rapprocher du Soleil en tiltant la voile, en l'orientant de telle manière à ce que les photons viennent frapper une autre partie qui puisse desserrer la voile. Et en jouant sur sa vitesse initiale et en jouant sur la gravité, on va rapprocher la voile du Soleil. Donc en réalité, c'est vraiment comme un bateau que l'on pourrait naviguer avec du vent. On peut se rapprocher du Soleil, on peut s'éloigner du Soleil, on peut aller à peu près n'importe où dans le système solaire. Et c'est ça toute la force de la voile solaire. Encore une fois, on n'embarque pas de carburant, ce qui permet de faire des économies en termes de masse envoyée dans l'espace.
En revanche, pour freiner, là, c'est plus compliqué.
Alors là, c'est plus complexe. Là, c'est la question qui est un peu plus difficile à répondre. Alors, il y a plusieurs choses. La première chose, c'est que pour l'instant, on peut envisager des missions scientifiques qui n'ont pas besoin de faire ce qu'on appelle des mises en orbite autour de certains corps. On peut penser à des fly-by, des survols de certains corps. On peut aussi se servir de ce qu'on appelle l'aérofreinage, c'est-à-dire que autour d'une planète, il y a quand même une certaine atmosphère, plus ou moins dense, et on peut se servir de cet aérofreinage et de la voile comme une espèce de parachute. Donc on pourrait imaginer partir vers Vénus et vraiment se rapprocher un maximum de la planète, de telle manière à utiliser la voile non plus comme système propulsif, mais comme parachute. On peut aussi se servir de l'électromagnétisme autour des planètes. On pense notamment à Jupiter, avec vraiment un fort électromagnétisme autour de la planète. On pourrait utiliser des moyens pour pouvoir décélérer. Mais c'est vrai que c'est un vrai sujet. Les scientifiques américains qui avaient réfléchi à accélérer des voiles solaires à la vitesse de la lumière pensaient même installer aux arrivées des lasers qui pourraient peut-être même décélérer les voiles. Bon, nous, on n'est vraiment pas du tout là. Là, c'est vraiment de la science-fiction. Nous, pour l'instant, notre objectif, c'est de démocratiser la science spatiale dans le système solaire avec un type de propulsion nouveau et in fine de révolutionner le transport spatial.
Et justement, c'est pour ça que vous prévoyez un test grandeur nature cet été. Vous allez envoyer dans l'espace votre premier objet spatial.
Exactement. C'est un petit satellite qui fait la taille d'une boîte à chaussures, ce qu'on appelle un CubeSat 6U, qui va peser 11 kg et qui va déployer une petite centaine carrée de mètres carrés de voile solaire. On a un lancement qui est prévu en octobre 2022 avec le lanceur Falcon 9 de la société américaine très connue SpaceX. On tirera depuis Cap Canaveral, depuis la Floride, depuis là où sont parties les missions Apollo dans les années 60-70.
Eh bien, on vous souhaite beaucoup de succès, qui en appelle d'autres, j'imagine. Merci beaucoup, Louis de Gouillon de Matignon, de nous avoir présenté Gamma, la start-up française qui veut mettre les voiles dans l'espace. On vous souhaite beaucoup de succès et à bientôt sur Europe 1. Il est 5h28 sur Europe 1, bon réveil avec nous et à suivre le journal de Christophe Lamar avec à la une les préconisations de la CIVISE, la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Et puis cette question, est-ce bientôt la fin des appels incessants de la part des compagnies d'assurance?
En tout cas, un nouveau dispositif voué à encadrer de manière plus stricte le démarchage téléphonique entre en vigueur dès demain. Qu'est-ce qui change et quels conseils pour éviter les abus? Nous serons dans 15 minutes avec Ariel Danlis de la CPR, l'instance administrative qui veille notamment à la protection des clients, des banques et des assurances.
Et puis comme tous les jeudis, votre rendez-vous gastronomie.
Alors à défaut de garnir votre assiette ce matin, Olivier Pouls va remplir votre verre de chartreuse à consommer avec modération.
N'est-ce pas Anissa Haddadi?
Bah écoutez, à 5h28, moi pourquoi pas hein. Ça réchauffe, on en a besoin aujourd'hui.
C'est ça dans le café,
parce que ça sent l'hiver, c'est ça?
Oh oui, ça sent bien l'hiver. Alors surtout sur le nord du pays, en Normandie, sur les Hauts-de-France, on a des flocons en plus de la pluie. Alors on vous en parle depuis le début de la semaine, c'est vrai qu'on vous parle de cette neige. Alors pour l'instant, c'est des flocons qui vont se mêler à la pluie et au grésil par endroits entre Lille et Boulogne-sur-Mer. J'essaye d'être le plus précise, mais entre Lille et Boulogne-sur-Mer, les sols pourront blanchir légèrement. Sur le reste du pays, on a des averses très fréquentes. Hein. Alors sur le reste du pays, c'est gris, il va faire nuit toute la journée en fait, hein, c'est à peu près ça, avec de l'humidité. Dans le Grand Est, les orages éclatent en deuxième partie de journée. Puis sur la moitié sud, on a des averses toute la journée avec un ciel très nuageux. Ça va quand même bien entre le Languedoc et la Côte d'Azur. Là, au bord de la Méditerranée, on a du vent fort, Mistral et Tramontagne jusqu'à 90 km/h. Du coup, le vent chasse les nuages et le soleil pourra se montrer au bord de la Méditerranée. Ce sera pas du tout la même ambiance entre Lille et Marseille aujourd'hui. On a 2 degrés ce matin à Amiens, 4 à Reims et Poitiers, 5 à Paris, 9 à Marseille, 11 pour Ajaccio. Cet après-midi, il va faire bien plus frais. On perd 4 degrés en général, hein. 7 à Boulogne-sur-Mer, 8 à Paris, 13 à Biarritz et 19 quand même à Marseille. Je vous disais que c'était pas la même ambiance.
Oui, effectivement. Merci beaucoup Anissa Haddadi. Bon réveil à tous à l'écoute d'Europe 1. Il est 5h30.
Europe 1.
Et à la une de ce jeudi, la commission indépendante sur l'inceste rend ses conclusions. 20 préconisations retenues, notamment la possibilité de retirer la garde aux parents soupçonnés d'abus sexuels sur son enfant. La guerre en Ukraine, Moscou annonce un cessez-le-feu à Mariupol pour permettre l'évacuation des civils. Et puis le football, succès sportif et public pour le PSG féminin. Les Parisiennes qualifiées pour les demi-finales de la Ligue des Champions devant 30 000 spectateurs au Parc des Princes, un record.
Europe Matin. Omblin Roche et Julien Pierce.
Et à 5h30, le journal, c'est Christophe Lamar. Bonjour Christophe.
Bonjour Julien, bonjour à tous. Briser le tabou de l'inceste et améliorer sa prise en charge, la CIVISE, la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, rend son rapport aujourd'hui. Conclusion très attendue, un an après le choc provoqué par le livre de Camille Kouchner, La Familia Grande. 160 000 mineurs sont abusés chaque année, dont 22 000 au sein de leur famille. La commission retient 20 préconisations. Louis Salé, on voit les principales avec vous.
Alors la première mesure forte s'adresse aux médecins pour qu'ils signalent obligatoirement tout enfant victime de violence. Aujourd'hui, les médecins peuvent être accusés de briser le secret médical. Ils risquent parfois des sanctions disciplinaires s'ils révèlent qu'un de leurs patients présente des signes physiques suspicieux ou bien leur a confié avoir été abusé sexuellement. La deuxième mesure vise à modifier le code pénal pour permettre aux victimes de faire appel devant la cour d'assises. C'est aujourd'hui impossible. Si la culpabilité de leur agresseur n'est pas reconnue, elles n'ont aucun moyen de contester cette décision. Troisième mesure, enfin, l'autorité parentale doit être suspendue lorsqu'un parent est poursuivi pour inceste. De nombreuses mères ont raconté à la commission devoir partager la garde de leur enfant avec un père soupçonné de le violer. D'autres préconisations sont à mettre en œuvre plus généralement dans la société. Mieux former les professionnels en lien avec les enfants pour qu'ils sachent les écouter, réagir au plus vite. Et aussi mieux accueillir dans les commissariats les petits qui se confient sur ce qu'ils ont vécu.
Louise Salé.
L'actualité de ce jeudi, c'est aussi la crise sanitaire. L'épidémie rebondit et elle s'invite dans la campagne électorale.
Plus de 120 000 nouveaux cas chaque jour en moyenne. Sixième vague ou rebond de la cinquième. Les médecins ne sont pas d'accord entre eux. Une certitude à ce stade, il s'agit d'un sous-variant d'Omicron qui répond au nom de code BA2. Le pic pourrait finalement être atteint à la mi-avril, d'après le gouvernement. Peu d'incidence pour l'instant dans les hôpitaux. Situation stable dans les services de soins critiques.
Pour autant, être déclaré positif au Covid ne doit pas nous empêcher d'aller voter dans 10 jours.
Le gouvernement a précisé le protocole sanitaire pour les électeurs qui seraient testés positifs. Victor Chabert, ils pourront se rendre aux urnes sans test ni passe sanitaire, mais de préférence avec un masque.
Oui, Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, l'a confirmé.
Pour des personnes qui seraient contaminées par la Covid dans les jours précédant le vote, elles pourront aller voter. Évidemment, nous leur recommandons, nous leur demandons de porter un masque pour cela. C'est un appel à la responsabilité individuelle puisqu'il n'y aura pas de passe sanitaire, de passe vaccinal ou de test exigé pour les personnes pour aller voter à l'entrée des bureaux de vote. Mais de la même manière que cela s'est fait dans les élections précédentes, il ne peut pas y avoir d'entrave au fait de participer aux élections.
Le port du masque ne sera pas obligatoire, mais fortement conseillé pour les personnes à risque. Elles devront cependant le baisser brièvement pour le contrôle d'identité. Du gel hydroalcoolique sera mis à disposition. Le bureau de vote aéré 10 minutes toutes les heures. Le matériel régulièrement désinfecté. Pour les personnels présents dans les bureaux, présidents, assesseurs et fonctionnaires, des autotests seront mis à disposition. S'ils sont positifs, ils devront alors s'isoler. Il va donc falloir prévoir des remplaçants. C'est une question complexe, alors qu'il est déjà difficile pour beaucoup de communes de trouver le nombre minimum d'assesseurs nécessaires pour chaque bureau.
Victor Chavert du service politique d'Europe 1.
Une élection, en tout cas loin d'être jouée d'avance, l'écart est même en train de se resserrer entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen.
Et c'est la première fois qu'il est aussi faible dans l'hypothèse d'un duel Macron-Le Pen au second tour. 52-5 contre 47-5, 5 points d'écart donc, selon le dernier sondage de l'Institut Elab, à condition que le match annoncé ait bien lieu. Les intentions de vote au premier tour confirment la poussée de Jean-Luc Mélenchon qui recueillerait 15,5% des voix, 10,5% pour Éric Zemmour. Valérie Pécresse passe pour la première fois sous la barre des 10% de
la vote. La majorité présidentielle qui lance une opération déminage, opération dans l'affaire McKinsey.
Et conférence de presse conjointe des ministres Amélie de Montchalin et Olivier Dussopt pour éteindre le début d'incendie. Il n'y a rien à cacher, les règles de la commande publique ont été respectées, affirme-t-il. Une enquête sénatoriale dénonce le recours jugé excessif et les sommes colossales alloué à ce cabinet américain pour ses activités de conseil. McKinsey est également accusé par les sénateurs de ne pas avoir payé le moindre impôt depuis 10 ans.
On en vient à la guerre en Ukraine à 5h35 sur Europe 1. Moscou annonce un cessez-le-feu à Marioupol.
Il sera effectif à 9h, heure française, pour permettre l'évacuation des 160 000 civils pris au piège. Annonce prise avec prudence par les Occidentaux, échaudée par le volte-face diplomatique de Moscou, qui ne voit pas d'avancée finalement dans les négociations menées à Istanbul. Une nouvelle séance de discussion à distance est programmée demain. Une seule avancée tout de même, Washington confirme le départ des troupes russes massées à Tchernobyl.
Et pendant ce temps, les Ukrainiens continuent de fuir massivement les combats.
Plus de 10 millions de déplacés depuis le début du conflit. Plus de 4 millions d'Ukrainiens ont carrément fui leur pays. Un peu moins de 30 000 sont arrivés en France à ce jour. En Moselle, une trentaine d'entre eux ont trouvé refuge dans un couvent, celui de Saint-Jean-de-Basselle. Des femmes, des enfants ukrainiens y ont trouvé un peu de calme et de réconfort. Reportage Mélina Fachin.
Ce très grand couvent est un peu moins silencieux que d'habitude. 34 Ukrainiens, beaucoup de femmes et d'enfants, ont trouvé refuge ici, comme Iliana, son fils Sacha et sa fille Anna.
L'environnement ici est beau, c'est calme et puis les gens sont très gentils, très accueillants.
Je me sens en sécurité. Malheureusement, mon père n'a pas pu venir avec nous à cause de la guerre, mais moi je me sens bien ici.
Au programme, beaucoup de repos, des jeux, des balades et aussi des cours de français.
Il est devant la fenêtre.
Les 50 religieuses qui vivent ici, comme sœur Odile, voient leur quotidien un peu bousculé avec joie.
On était surprises au départ, bien sûr, mais c'est avec plaisir que toute la communauté les a accueillies. C'est justement s'ouvrir à personne qui a besoin d'aide.
Mais accueillir des réfugiés a tout de même un coût, explique Guillaume Le Corvézier, gestionnaire du couvent.
C'est 30 euros par jour et par personne. Ça fait à peu près 1000 euros par jour.
Alors pour pouvoir continuer à accueillir des réfugiés aussi longtemps que nécessaire, le couvent lance aujourd'hui un appel aux dons. Saint-Jean-de-Basselle, Mélina Fachin, Europe 1.
à Sevran, en région parisienne. Le policier auteur du coup de feu mortel est en garde à vue.
Les enquêteurs de l'IGPN veulent éclaircir les circonstances dans lesquelles il a ouvert le feu sur le conducteur d'une camionnette volée. La famille de la victime a porté plainte pour meurtre. Une marche blanche est prévue samedi après 4 jours de violences urbaines.
On en vient au football. Une qualification et un record d'affluence pour les joueuses du PSG.
Elles disputeront les demi-finales de la Ligue des Champions. Hier soir, les Parisiennes ont arraché le nul 2-2 à l'issue des prolongations face au Bayern Munich. Match fou dans un Parc des Princes bien garni. Plus de 27 000 spectateurs. Un record, Cédric Chasseur.
Les joueuses parisiennes sont restées là pendant plusieurs minutes après le match devant la tribune Auteuil pour communier avec ses supporters. De la joie et sans doute beaucoup de soulagement après un match au scénario très indécis et pas forcément à l'avantage du PSG. L'entraîneur Didier Olé-Nicole.
Elles avaient trop envie de bien faire et c'est difficile. Aujourd'hui, ça a été un vrai match de coupe où on était chercher un résultat. Et quelque part, je pense que c'est de très très bon augure pour la suite.
Présent mais pas amnésique, comme ils l'ont rappelé dans une banderole en début de match, les ultras parisiens n'ont cessé de donner de la voix pour encourager ces joueuses. Un soutien apprécié par la capitaine Grace Guillot.
L'ambiance ce soir, elle était exceptionnelle. On a pris énormément de plaisir de voir les ultras, de voir tous les supporters qui étaient là présents. Ça a été un petit peu compliqué au début, mais au fur et à mesure, on a appris de l'intensité et voilà, au final, je pense qu'ils nous ont énormément apporté ce soir.
Reste désormais à attendre de connaître l'adversaire du PSG en demi-finale. Ce sera soit la Juventus Turin, soit l'Olympique Lyonnais qui s'affrontent ce soir.
Et Cédric Chasseur, près de 30 000 spectateurs à Paris et plus de 91 000 à Barcelone, oui, pour assister à la version féminine du Classico entre le Barça et le Real. C'est un record mondial, hein, Julien, et Barcelone finalement qualifié 5-2. Ils n'ont pas eu besoin d'aller jusqu'aux prolongations ni au tir au but.
Bon, et chez les garçons, sachez que les États-Unis et le Mexique, les sélections sont qualifiées, ont validé leur ticket pour le prochain mondial au Qatar en novembre prochain. Merci beaucoup, Christophe Lamar, pour toutes ces informations. On passe aux courses, les pronostics du Quintet avec Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Julien, c'est sur les 1600 mètres de la piste en sable fibré de l'hippodrome de Chantilly que va se disputer ce Quintet. Et parmi les 16 partants, priorité au numéro 4, le Nomade, et 1, Billabong 4, classés respectivement 2e et 3e d'un quintet similaire le 8 mars à Chantilly, sur le même parcours que celui qu'ils emprunteront cet après-midi. On leur opposera les numéros 2, Ray Stave, déjà vainqueur à ce niveau l'an dernier et dont la course de rentrée n'est vraiment pas passée inaperçue. 5, Royaumont, régulier et à suivre en confiance dès sa réapparition malgré 3 mois d'absence. Et 11, Chicho Boy, en constant progrès et pas incapable pour sa première tentative dans un quintet d'accrocher une place à une cote spéculative. Enfin, les numéros 9, Crack Régiment, 12, I5 et 14 Total Knockout compléteront ma sélection. Mon pronostic, 4, As, 2, 5, 11, 9, 12 et 14.
Des pronostics à retrouver dès maintenant sur europe1.fr. Merci Thierry Léger.
Retentissement mondial, celui du producteur Harvey Weinstein.
Claude François qui est mort au milieu de...
C'est le premier jour de l'euro.
Et maintenant, écoutez Yuri Gagarin.
Europe 1. Le jour où les grands faits historiques racontés à travers les archives d'Europe 1.
Et cela fait près de 3 ans que Volodymyr Zelensky est président de l'Ukraine. Bonjour Lord d'Autriche.
Bonjour Julien, bonjour Omblin, bonjour à tous.
Il y a 3 ans, précisément le 31 mars 2019, Volodymyr Zelensky sort en tête du premier tour de l'élection présidentielle en Ukraine.
Oui, il obtient lors du premier tour presque 2 fois plus de voix que le président sortant Petro Poroshenko. Zelensky, âgé de 41 ans et novice en politique, et un mois plus tard, il remporte les élections avec 70% des voix. Voici ses premiers mots sur Europe 1 en avril 2019.
Merci aux administrations d'avoir été honnêtes. Merci aux services secrets de m'avoir gardé en forme. Je promets que je ne vous laisserai jamais tomber. Personne parmi vous. Je peux dire à tous les citoyens de l'ancien espace soviétique, en tant qu'Ukrainien, regardez-nous, tout est possible.
Je promets que je ne vous laisserai pas tomber. Cette phrase, évidemment, résonne d'une façon toute particulière aujourd'hui avec cette guerre en Ukraine. Dans son costume bleu, à l'époque, Zelensky affiche un grand sourire. Il n'a pour seule expérience du pouvoir que le rôle d'un professeur d'histoire devenu subitement président dans une série télévisée.
Mais Volodymyr Zelensky avait promis de casser le système, Laure.
Et il avait fait campagne sans programme précis, mais il a fait de la lutte contre la corruption son combat. Là où le président sortant Porochenko est accusé de renâcler à lutter contre la corruption. C'était pourtant la principale revendication des manifestants sur la place Maïdan 5 ans plus tôt. Et en 5 ans, il n'y a eu aucune évolution, raconte alors sur Europe 1 cette spécialiste de l'Ukraine, Alexandra Goujon.
La question de la corruption ne touche pas simplement les institutions politiques nationales, mais aussi au niveau local, la justice, l'enseignement, la santé. Une partie des citoyens ukrainiens est habituée au fait que je donne quelque chose pour obtenir quelque part. Donc il y a ce système qui est ancré auquel une partie des citoyens est habituée.
Ce qui fait sa force, c'est aussi que Zelensky bénéficie du rejet des élites. Sans socle politique, il a mené campagne quasi exclusivement sur les réseaux sociaux. Il promet aussi de désendetter le pays, de mettre fin à la guerre dans le Donbass. Et sur la forme, le profil atypique de Zelensky intrigue à l'époque Emmanuel Macron. 2 mois après son élection, en juin 2019, le président ukrainien a réservé au président français sa première visite en tête-à-tête.
Merci beaucoup, Laure d'Autriche, et à demain pour un nouveau jour où, dans un instant sur Europe 1, l'encadrement dès demain du démarchage téléphonique dans l'assurance.
Europe 1, Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Dans Bienfait pour vous, on vous donne toujours nos meilleurs conseils pour arrêter de stresser. Mais attention, cette fois-ci, on va voir comment dompter notre anxiété et en faire un super pouvoir.
Bienfait pour vous.
Alors à tout à l'heure, dès 11h sur Europe 1.
Omblin Roche et Julien Pierce.
Votre matinale info sur Europe 1.
5h43, bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre. Cela fait partie des nouvelles règles qui entreront en vigueur demain, 1er avril. L'encadrement du démarchage téléphonique dans l'assurance. Qu'est-ce qui change ? Eh bien, on en parle, Omblin, avec Ariel Dalins, adjointe au service de contrôle des intermédiaires de l'ACPR.
ACPR, c'est-à-dire l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, une instance qui veille notamment à la protection des clients, des banques et des assurances. Bonjour Ariel Dalins.
Bonjour Omblin.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. Après avoir interdit dès septembre 2020 le démarchage téléphonique dans certains secteurs comme la vente d'équipements ou la réalisation de travaux d'économie d'énergie, nouveau tour de vis de la part du gouvernement. Alors est-ce que cela veut dire que les appels incessants des compagnies d'assurance, c'est terminé ?
Alors cette loi ne vise pas véritablement à interdire le démarchage téléphonique, mais plutôt à mieux l'encadrer pour mettre un terme aux mauvaises pratiques qu'on a pu constater et qui génèrent aujourd'hui toujours beaucoup de réclamations.
Alors que prévoit-il ce nouveau dispositif ? Si ce n'est pas interdire, il l'encadrera comment ?
Plusieurs nouveautés sont introduites. En premier lieu, après avoir décliné leur identité et précisé l'objet de leur appel, les démarcheurs téléphoniques devront obligatoirement recueillir le consentement du consommateur pour pouvoir poursuivre la conversation. Et sans cet accord explicite, le démarcheur devra raccrocher et ne plus recontacter le particulier.
Revenons un instant sur cette origine d'appel. Il arrive couramment que le démarcheur reste évasif sur son identité, sur l'objectif de son appel. Lutter contre ces pratiques, c'est une première étape contre les abus. C'est indispensable.
Oui, tout à fait. Il faut effectivement être très vigilant dès le début de l'appel sur l'identité de son interlocuteur et la raison pour laquelle il appelle. Très souvent, on a observé en contrôle que les démarcheurs se présentaient de façon tout à fait ambiguë en se faisant passer pour votre mutuelle ou pour votre caisse de retraite ou encore pour votre opérateur téléphonique, de façon à instaurer une forme de climat de confiance qui vous rend plus enclin à rentrer dans une démarche, dans une conversation. Souvent aussi, on constate que l'intention commerciale de l'appel est masquée. On vous déclare qu'on vous appelle pour mettre à jour votre dossier ou pour faire un bilan. Et tous ces éléments, en fait, qui contribuent à vous mettre en confiance, vous amènent à communiquer des informations sensibles et à vous retrouver entraîné dans une démarche commerciale presque un peu à votre insu. Donc, c'est pour ça qu'il faut que les consommateurs soient très attentifs et n'hésitent pas à poser de questions sur l'identité de la personne qui les appelle si ça ne leur paraît pas très clair et qu'au moindre doute, ils mettent fin à l'appel.
Alors, vous l'avez bien précisé, hein, le consentement doit être clairement demandé et en cas de refus, c'est le démarcheur qui met fin à la discussion. On n'a plus besoin de batailler pour essayer de raccrocher en essayant de rester poli.
Alors oui, le nouveau dispositif prévoit que sans consentement clair et explicite du consommateur à la poursuite de la conversation, le démarcheur doit de lui-même raccrocher et ne plus recontacter le client.
Quant à la signature d'un contrat, un démarcheur qui propose de nous accompagner à distance, de nous aider à saisir nos données personnelles, à cliquer au bon endroit, là on se méfie immédiatement.
Oui. Le texte prévoit en effet plusieurs choses dans la matière. Première chose, on instaure un délai de réflexion de 24 heures minimum avant de signer le contrat. L'objectif, c'est que les clients aient le temps de prendre connaissance du projet de contrat qu'on leur a envoyé au préalable et qu'ils puissent comparer éventuellement cette proposition avec ce qu'ils ont déjà pu souscrire et qu'ils n'agissent pas dans la précipitation. Donc, il y a déjà 24 heures de réflexion entre le moment où je reçois mon projet de contrat et le moment où je signe. Par ailleurs, là aussi, c'est une innovation de ce texte qui rentre en vigueur, c'est que le professionnel devra bien vérifier que tous les documents qu'il a adressés au client sont bien reçus par ce dernier. Puisque ce qu'on a pu constater, c'est que certains professionnels envoyaient les documents, mais sur des adresses courriel fictives, de sorte que le client ne les recevait jamais et en fait ne se rendait pas compte qu'il avait souscrit un contrat et qu'il était titulaire d'un nouveau contrat. Donc effectivement, ça c'est un premier point. L'autre chose, c'est que le texte vise à généraliser le recueil du consentement par écrit, c'est-à-dire qu'on ne pourra plus demain signer ces contrats à l'oral. Là, ça vise à mettre fin à une pratique là aussi qu'on avait constatée, qui était assez délétère pour le consommateur. On lui faisait répéter au téléphone une série de chiffres qui permettaient, en fait, une fois qu'on la saisissait dans un système d'information, d'enregistrer sa signature électronique du contrat. Et donc là, c'est des pratiques qui ne pourront plus avoir cours. Donc le contrat dorénavant devra être signé soit de façon électronique, soit manuscrite, mais ce sera forcément une signature écrite, et c'est une signature qui émane du consommateur. Il ne peut pas déléguer à un tiers le soin de signer pour son compte. Et là aussi, pas de signature au cours d'un appel téléphonique. Donc, toutes les initiatives qui consistent à vous téléguider pour vous expliquer où cliquer, comment faire, que saisir, ne doivent plus avoir cours. Vous faites vos démarches de signature seules pour ne pas être influencé, pour être très libre dans vos choix.
Oui, dans un second temps. L'appel est enregistré. On n'hésite pas à demander une copie de l'enregistrement. À quoi peut-elle servir, cette copie?
Alors, ça peut être d'une grande aide si vous avez... plus tard, un litige avec le distributeur. Par exemple, si au téléphone, on vous a indiqué que ce contrat couvrirait telle et telle situation et puis vous découvrez que ce n'est pas le cas, ou si on vous a annoncé un montant de cotisation de X qui ne se révèle pas être celui qui vous est prélevé, demander la copie de l'enregistrement vous permet de faire valoir vos droits.
Et évidemment, on ne communique jamais nos identifiants bancaires. Cela va de soi pour tous les démarchages téléphoniques, évidemment.
Alors oui, c'est une grande mesure de précaution.
Mais c'est bien de le rappeler.
Si on comprend, voilà, donner ses coordonnées bancaires, c'est d'une certaine façon ouvrir l'accès à son compte et autoriser un prélèvement. Donc si on ne comprend pas quel est l'objectif et quelle est l'utilité de cette demande, on ne communique pas. C'est vrai qu'on a pu constater des fois des opérateurs un peu sans scrupules qui indiquaient aux gens de communiquer ses identifiants. C'était une façon de vérifier leur identité ou c'était nécessaire pour permettre le versement de prestations. Alors oui, ça permet de verser des prestations, mais ça permet aussi surtout de prélever des cotisations. Donc si on n'est pas du tout dans une démarche, on n'est pas encore prêt à souscrire le contrat et qu'on est encore dans une démarche de réflexion à l'étape du devis, on ne communique pas ces identifiants bancaires, on pourra toujours les communiquer ultérieurement.
Alors on a bien compris que le démarchage téléphonique des compagnies d'assurance ne va pas être interdit mais encadré. Si on ne souhaite en aucun cas recevoir ce genre d'appel, comment procède-t-on ?
On s'inscrit sur la liste d'opposition Bloctel, pour pas être importuné au téléphone. Et puis, on est prudent aussi dans ses recherches sur Internet. Lorsqu'on se renseigne sur des produits, on peut être amené à laisser des traces et notamment à laisser son numéro de téléphone. Et bien sûr, à chaque fois qu'on laisse son numéro de téléphone, on s'expose à être contacté.
Merci beaucoup, Arielle Dalinze, d'avoir accepté de répondre à nos questions sur Europe 1 et de nous avoir aiguillé et conseillé ce matin. Vous êtes adjointe au service de contrôle des intermédiaires de l'ACPR, l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Très bonne journée.
Merci à vous. Au revoir.
Merci.
Europe Matin.
Omblin Roche et Julien Pierce.
Il est 6h10 sur Europe 1, l'essentiel de l'actualité, Alban Le Prince.
Nous ne croyons personne. Déclaration de Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, dans la soirée. Après de nouveaux bombardements à Tchernigiv, dans cette ville du nord de l'Ukraine, Moscou s'était engagé mardi à réduire radicalement son activité militaire. Parallèlement, la Russie annonce un cessez-le-feu dans la ville martyre de Mariupol ce matin pour évacuer des civils. L'Elysée se montre sceptique. L'épidémie de Covid, l'OMS plutôt pessimiste. Dans son pire scénario pour cette année, elle envisage l'apparition d'un nouveau variant encore plus virulent que ceux connus jusqu'ici. Et puis une nouveauté aujourd'hui à la SNCF, la compagnie lance sa carte senior, 79 euros par mois pour les voyageurs de plus de 60 ans qui pourront voyager du lundi au vendredi.
Et on se penche à présent sur ce qu'on met dans nos assiettes.
Enfin, plutôt dans nos verres, en l'occurrence. Bonjour Olivier Pouls.
Bonjour Omblin, bonjour Julien.
Alors ce matin, ce n'est pas un bon café que vous nous proposez, mais un élixir qui revient très à la mode, la chartreuse.
Et oui, depuis quelques années maintenant, la Chartreuse, figurez-vous, connaît un regain d'intérêt incroyable auprès d'amateurs, de passionnés de cette boisson distillée à base de plantes, à tel point que certaines bouteilles récemment anciennes se sont vendues plusieurs milliers d'euros dans des ventes aux enchères. Alors on sert de la Chartreuse dans les plus grands restaurants et la demande n'a jamais été aussi forte pour les différents produits qui sortent du seul et unique lieu de production qui est situé en Isère.
Quelle est l'histoire de ce produit à consommer évidemment avec modération? C'est un élixir de longue vie à l'origine?
C'est comme ça qu'il était présenté au début, en tout cas, et que démarre son histoire en 1605. Figurez-vous que les moines de la Chartreuse de Vauvert à Paris reçoivent un manuscrit. Il contient une formule d'élixir de longue vie, ça fait rêver. Alors hélas, il est trop compliqué à élaborer et il tombe dans l'oubli. Alors quelques années plus tard, en 1764, après de nombreuses recherches et tentatives, les moines de la Grande Chartreuse, non loin de Grenoble, parviennent enfin à réaliser la recette qui contient un nombre impressionnant de plantes aromatiques. En 1840, ils commercialisent la Chartreuse verte sous le nom de liqueur de santé. Alors au début du XXe siècle, en 1903 précisément, ces moines chartreux sont expulsés de France. Ils se réfugient alors en Espagne, dans la région de Tarragone.
Et ils ont emporté avec eux la recette, alors.
Et oui, et ils vont continuer à la produire, en adaptant probablement la recette aux plantes dont ils disposent localement. La production espagnole va durer jusqu'en 1989. Alors, les chartreuses dites Tarragone sont aujourd'hui les plus prisées des consommateurs, car les dernières qui restent sont rarissimes. On n'en produit plus. Et donc, forcément, il y a un phénomène de rareté. Et puis, de goût, peut-être aussi.
Les moines sont rentrés en France?
Oui, alors, dès 1921, ils ont produit un peu de chartreuse à Marseille, qui est très recherchée aussi. Et puis, ils ont repris la distillation à Voiron, où est toujours installée aujourd'hui la distillerie de chartreuse, après que leur bâtiment d'origine, à Fourvoirie, ont eux été détruits par un glissement de terrain.
Alors, penchons-nous sur cet élixir à présent, Olivier. Quelle est sa recette?
Je ne pourrais pas vous la donner, car elle est secrète. Et seuls deux moines connaissent la recette dans sa totalité. Alors, la légende prétend qu'elle contient 130 plantes différentes qu'il faut distiller afin de produire un alcool très puissant qui titre 71 degrés. Oui. Alors chaque année, ce ne sont pas moins de 18 tonnes de ces plantes qui sont livrées au monastère. Elles sont triées, broyées, mélangées au gramme près pour respecter la dite recette. Macération, distillation, adjonction de miel distillé ou de sirop de sucre, la chartreuse ensuite vieillit dans des fûts. Il existe deux grands types de chartreuse, la verte, la recette d'origine, qui titre 55 degrés au moment où elle est commercialisée, et dont la couleur unique au monde n'est obtenue que par la macération des plantes. Elle a un goût plus herbacé. Et puis il y a la chartreuse jaune, créée elle un siècle plus tard. Elle est plus sucrée, elle titre 43 degrés d'alcool. Enfin, les moines produisent encore un peu de leur fameux élixir, 69 degrés d'alcool. Autant vous dire que c'est à consommer avec modération et que ça réveille.
Merci Olivier.
Bonne journée.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
5h57, dans un instant la météo, le journal et une inquiétude.
Oui, que nos bas de laine fondent comme neige au soleil. Il ne vous a pas échappé que tout coûte plus cher depuis quelques mois. Énergie, produits alimentaires, les prix à la consommation ont augmenté de 3,6% en février. Hausse qui devrait dépasser les 4% ce mois-ci. Les chiffres seront dévoilés ce matin par l'INSEE. Mais vous l'aurez compris, l'inflation est fortement de retour. Pour de bon, eh bien c'est toute la question. Va-t-elle impacter notre croissance, nos épargnes, ou faut-il placer nos économies livrées à actions immobilières? Vous saurez tout dans une dizaine de minutes grâce à notre invité, l'économiste Philippe Crevel, directeur du Cercle de l'Épargne. Et puis, juste après, on mène votre partition.
Quel est le point commun entre le rappeur Tupac Shakur et Jean-Jacques Goldman? Le succès absolu de Bruce Hornsby, The Way It Is. Alors, le lien entre les deux, on vous dit tout dans la partition dans 20 minutes.
On a hâte!
Ça, c'est du suspense incroyable.
Tout l'inverse de la météo du jour.
Alors là, vraiment.
On passe du printemps à l'hiver.
Dites au revoir au printemps. Salut, printemps, c'était sympa, on a passé un bon moment et c'est terminé. On a beaucoup d'humidité aujourd'hui, on a des averses pour tout le monde, sauf entre le Languedoc et la Côte d'Azur. C'est vrai qu'au bord de la Méditerranée, on a un temps plus lumineux, on a même de belles apparitions du soleil. Mais attention, c'est pas sans contrepartie, puisque s'il fait si beau, entre guillemets, au bord de la Méditerranée, c'est parce qu'on a du vent. Mistral et Tramontane soufflent jusqu'à 90 km/h. Alors, ils chassent les nuages, mais c'est pas forcément très agréable. Entre les Pyrénées et le Grand Est,
Bah, on a une journée très pluvieuse. Sur les Pyrénées, le Massif central, les Vosges, le Jura, les Alpes, il neige à partir de 1000 mètres, hein, donc c'est pas à très haute altitude. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est la première journée de neige, puisque sur les Hauts-de-France et la Haute-Normandie, eh bien, on aura des flocons mélangés à la pluie, au grésil. Alors, pas de la neige qui va forcément tenir au sol, ça sera pour la nuit prochaine. D'ailleurs, je vous en reparle hein, à 7h sur Europe 1. Hein. On va parler de cette neige qui va tenir au sol et qui concerne la région parisienne, les Hauts-de-France et le Grand Est. On a 2 degrés à Amiens ce matin, 5 à Paris, 11 à Perpignan. Cet après-midi, ça baisse bien entre 7 et 19 degrés du nord au sud.
C'est noté. Merci beaucoup Anissa Dadi. Vous écoutez Europe 1. Très bon début de journée à tous. Nous sommes le jeudi 31 mars. Et il est 6h. Une quarantaine d'enfants dans un état grave après avoir mangé de la pizza de la marque Buitoni. Des intoxications d'une grande ampleur à cause de la bactérie Escherichia coli qui s'attaque à nos reins. Plus de 70 familles sont concernées, vous les entendrez dans ce journal. Même contaminé par le Covid, vous pourrez voter dans 10 jours. Le gouvernement a précisé le protocole pour l'élection présidentielle. Parmi les candidats, rien ne va plus entre Éric Zemmour et Marine Le Pen. Florilège d'amabilité hier devant un rassemblement d'agriculteurs. Et puis le groupe Bon Entendeur de retour sur scène. Le trio français présente son nouvel album, La rencontre entre l'électro et les monuments de la chanson française.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Et le journal vous est présenté par Roman Hockey. Bonjour Roman.
Bonjour à tous. Un scandale sanitaire. 41 enfants dans un état grave après avoir mangé une pizza Fresh Up de la marque Buitoni. Une trentaine de cas sont aussi en cours d'évaluation. La faute à la bactérie E. coli présente dans la viande hachée ou la pâte de ces pizzas. Des aliments que vous devez même détruire si vous en avez dans votre congélateur. 100 000 à 150 000 boîtes sont vendues chaque semaine en France. Un repas devenu un drame dans certaines familles puisque la bactérie s'attaque à nos reins et peut avoir des conséquences catastrophiques et parfois irréversibles. Johan Tritz.
Liline est une mère de famille de 33 ans. Il y a quelques jours, son fils de 4 ans, Yatis, a dû se rendre en urgence à l'hôpital d'Amiens après avoir mangé deux fois de ses pizzas. Il a été contaminé par la bactérie E. coli et développé un syndrome hémolytique et urémique dit CHU. Elle raconte.
On comprend pas ce qui se passe, hélicoptère, réanimation. J'arrive à l'hôpital, je le rejoins, on me dit que mon fils il est atteint d'un CHU. Et là, on m'explique que ses reins ne fonctionnent plus, qu'on va devoir les remplacer par une machine. On espère que ses reins refonctionneront, mais que ça risque de prendre beaucoup de temps. Mon fils, il a subi sa 4e opération. Il a reçu 2 transfusions sanguines aussi. Et il y a le professeur qui est venu me voir un soir en me demandant si mon fils, par hasard, aurait consommé ces fameuses pizzas. On les avait consommées à 2 fois d'intervalle. C'est grave ce qui se passe. Ça touche beaucoup d'enfants et ça devrait pas arriver.
Aujourd'hui, 75 cas, dont 41 graves, ont été identifiés en France. Liline, comme d'autres familles, ont décidé de porter plainte. L'entreprise Buitoni a retiré tous ses produits en rayon et arrêté 2 chaînes de production. Elle tente de trouver la provenance de la contamination, mais sans succès pour l'instant.
Les explications de Johan Tritz pour Europe 1.
S'agit-il d'un rebond ou d'une nouvelle vague ? Une certitude, le Covid est toujours là. L'Organisation mondiale de la santé a dévoilé plusieurs scénarios pour la suite de la pandémie.
D'abord le pire, avec l'apparition d'un variant encore plus virulent et plus transmissible que les précédents, et puis le plus probable avec une maladie tout de même moins grave grâce à l'immunité des populations. Chez nous, 130 000 nouveaux cas sont détectés chaque jour en moyenne, et pendant que l'épidémie repart, les centres de vaccination, eux, ferment. Un calendrier qui interroge dans cette mairie du 6e arrondissement de Paris où s'est rendu Thibaut Hue pour Europe 1.
Et voilà, du coup, c'était notre dernière patient.
Une dernière piqûre et puis s'en vont. Les soignants retirent leurs blouses et soufflent. Terminé le centre de vaccination. Mais les derniers patients sont très étonnés, comme Marie-Claire qui remonte ses lunettes.
J'étais un peu surprise qu'on a besoin de se faire vacciner, que c'est plus simple de venir dans la mairie qu'ailleurs dans une pharmacie où il faut prendre rendez-vous. Je trouve que c'est trop tôt pour fermer.
Trop tôt aussi pour Elsa, venue pour sa 3e dose. Elle craint la remontée des cas.
Le Covid n'est pas mort, hein. Enfin, on ne va pas non plus faire comme si il n'existait plus.
Les prochains patients iront chez leur médecin ou dans une pharmacie. Des patients qui étaient de moins en moins nombreux et le temps semblait un peu long pour les soignants comme Antoine.
On voit les vaccinations vont réduire. Petite remontée là avec les 80 ans et la 4e dose. Il y a eu des moments très creux. Oui.
Et le responsable du centre, le docteur Marc Jaconneau, le confirme, c'était le bon moment de fermer.
On voit que le variant Omicron est quand même moins virulent. Il faut toujours rester très prudent. Peut-être que dans 15 jours, on va avoir des chiffres qui remontent très très haut et des hospitalisations, des décès. Et l'épidémie ne nécessite plus qu'on vaccine toute la population.
Et au cas où, prévient le médecin, les ordinateurs et une partie du matériel restera sur place pour une éventuelle réouverture.
Le reportage de Thibaut Huch.
Le Covid qui, en tout cas, n'empêchera pas les électeurs d'aller voter pour le premier tour de l'élection présidentielle, c'est dans 10 jours.
Il faudra simplement porter un masque que vous devrez baisser pour le contrôle d'identité, du gel sur les tables, des pièces aérées et des autotests à disposition pour le personnel. Le protocole a été précisé hier par le gouvernement.
Et dans le même temps, les candidats étaient, eux, face aux agriculteurs pour défendre leur programme.
Avec un échange de droite entre Marine Le Pen et Éric Zemmour, Victor Chabert, le climat se tend entre les deux prétendants à tel point qu'au Rassemblement national, on redoute les conséquences d'un éventuel ralliement d'Éric Zemmour au second tour.
Oui, c'est un échange qui en dit long sur le degré d'animosité entre Marine Le Pen et Éric Zemmour. Ce dernier s'est attiré les foudres de la candidate en analysant son électorat composé, je cite, « d'ouvriers et de petits employés ».
J'ai été une nouvelle fois choquée par des propos qu'il a exprimé et qui révèle un vrai mépris de classe.
Je ne méprise pas les ouvriers et les employés. Dire que les ouvriers sont des ouvriers, ce n'est pas méprisant. Deuxièmement, ce n'est pas une femme qui a grandi dans des manoirs, qui est une héritière, qui va me faire la leçon à moi.
Marine Le Pen semble bien décidée à ne rien lui laisser passer. D'ailleurs, dans l'entourage de la candidate, il y a un sujet Éric Zemmour, au point que certains stratèges du RN se demandent comment gérer un soutien de l'ancien journaliste au second tour. Éric Zemmour perçu comme trop radical, est-ce qu'il n'y aura pas un risque de détruire une partie du travail de normalisation ou alors faudra-t-il minimiser ce soutien? En tout cas, Emmanuel Macron a bien compris le potentiel de cette situation. Le président sortant parle d'un tandem Zemmour-Le Pen pour tenter de rediaboliser la députée du Pas-de-Calais.
Victor Chabert du service politique d'Europe 1. Emmanuel Macron qui reprend sa campagne électorale avec un déplacement à Fouras en Charente-Maritime pour parler environnement et biodiversité.
Et dans cette campagne, il y a comme un bruit de fond qui gêne le président candidat.
Non, et la polémique McKinsey du nom du cabinet de conseil épinglé dans un rapport du Sénat. Opération déminage hier pour le gouvernement avec une conférence de presse. La ministre de la fonction publique a dénoncé des attaques grossières. Amélie de Montchalin affirme que l'État n'a rien à cacher à propos des 12 millions d'euros versés à ce cabinet pour l'élaboration de la stratégie vaccinale.
6 heures passées de 6 minutes sur Europe 1. Peut-on encore croire les promesses de Moscou ? La Russie garantit un cessez-le-feu à Mariupol à 9h ce matin.
Une trêve pour permettre en théorie l'évacuation des 160 000 civils bloqués dans cette ville assiégée d'Ukraine. Nous ne croyons personne, a répondu hier le président Zelensky. La Russie s'était engagée à réduire radicalement ses forces militaires en Ukraine avant de poursuivre ses tirs d'artillerie. Et puis un peu plus de légèreté avec de la musique et le trio électro Bon Entendeur de retour sur scène pour son dernier album. Il s'appelle Minuit, un groupe qui s'amuse avec les classiques de la chanson française. Ils seront demain soir au Zénith de Paris avant une tournée en région. Naïma Benchemann les a rencontrés pour Europe 1.
Comme j'aimais pas la solution de se foutre de tout, ni de pleurer de tout parce que c'est très crevant, j'ai décidé de rire de tout.
Mélanger des discours de grandes personnalités comme Coluche à des sons électro, c'est l'ADN de Bon Entendeur.
En fait, la musique sert un peu sur notre projet de surligneur pour des mots qui sont déjà très beaux. En fait, les phrases qu'on choisit, elles vivent très bien d'elles-mêmes, mais voilà, ça va les mettre en gras et la taille du dessus, quoi, en les mettant en musique.
Leur tournée est conçue comme la bande-son de la soirée parfaite et sur scène, leurs versions d'icônes comme Jane Birkin ou Françoise Hardy ont des rythmes endiablés.
Avec ce nouvel album où il y a quand même effectivement un peu plus de morceaux dansants,
on va essayer de faire un spectacle qui allie un peu tous nos univers. Donc on va essayer de jongler avec tout ça en faisant danser les gens.
Au nom de la fête, le temps est beau, le ciel est bleu pour le trio. À Bon Entendeur, la permission de minuit réussit merveilleusement bien.
Le temps est bon, le ciel est bleu. J'ai deux amis qui sont aussi mes amoureux. Le temps est bon, le ciel est bleu.
Voilà, le temps est bon, le ciel est bleu, chante Bon Entendeur. En tout cas, pas dans le nord de la France ce matin, puisque Météo France déclenche l'alerte orange, neige et verglas sur le nord et le Pas-de-Calais.
Merci beaucoup, Romain Oquet, pour toutes ces informations et prudence à nos amis nordistes. Si vous prenez la route, effectivement.
Il est 6h08, les sports. Le journal des sports, avec vous Martin Lange du foot féminin. Pour commencer, le PSG en demi-finale de la Ligue des Champions.
Oui, les Parisiennes ont éliminé le Bayern Munich hier soir au bout du suspense, mené 2-1 à la fin du temps réglementaire. Elles ont eu besoin de la prolongation pour arracher un match nul, synonyme de qualification. C'est la Suissesse Bachmann qui a libéré les 27 262 supporters présents au Parc des Princes. Un record pour un match de club féminin en France. La capitaine parisienne, Grace Gayoreau, elle retenait surtout le caractère de son équipe.
On peut être fier parce qu'on n'a rien lâché. Ça fait plusieurs semaines qu'on travaille, qu'on a beaucoup de matchs avec beaucoup d'intensité. Et aujourd'hui, si on en est là, c'est aussi parce que voilà, on lâche rien dans la tête, toutes les joueuses ensemble. Donc c'est une grosse force qu'il faut garder, surtout pour la suite.
Grâce Gayoreau au micro européen de Cédric Chasseur. 27 000 supporters, c'est le record en France, mais on est encore loin de l'Espagne. Hier, ils étaient plus de 90 000 à assister au Classico Barcelone-Real Madrid. Qualification des Catalanes après leur victoire, 5-2.
Ce soir, c'est au tour des Lyonnaises, Martin.
Oui, l'OL reçoit la Juventus de Turin, battue 2-1 en Italie la semaine dernière. Les Lyonnaises sont dos au mur, pas de quoi les effrayer, pourtant, selon leur coach Sonia Bonpastor.
On aborde la rencontre avec 100% de confiance, parce qu'on a encore notre destin entre nos mains, on n'est pas mort. Je suis convaincue que mon groupe a le potentiel et les qualités pour battre cette équipe par 2 buts d'écart.
Sonia Bonpastor au micro de Maxime Cheuch.
La Coupe d'Europe également au programme des basketteurs et des handballeurs.
Oui, le PSG Handball ne ramène qu'un match nul de son déplacement en Norvège à Elverum en 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Match retour à Paris jeudi prochain. Ce soir, c'est Montpellier qui se déplace à Porto, toujours pour le compte des 8e de finale aller. Et puis en basket, Monaco peut valider ce soir son billet pour les play-off de l'Euroleague. La Roca Team se déplace à Milan.
Enfin, dans le reste de l'actualité sportive, Martin.
De la Formule 1 avec un petit nouveau chez les Grands Prix la saison prochaine, Las Vegas, spectacle garanti avec une course de nuit au milieu des casinos et des hôtels de luxe. Et puis un mot de vélo avec le retour gagnant du Néerlandais Mathieu Van Der Poel hier sur À Travers les Flandres. Le petit-fils de Raymond Poulidor, est en forme à 3 jours du Tour des Flandres. Le duel face à Wout Van Aert promet dimanche prochain.
Merci beaucoup, Martin. C'était le journal des sports de Martin Lange.
Vous restez avec nous dans un instant. On va se pencher sur l'inflation. Les chiffres pour le mois de mars seront connus ce matin et la facture s'annonce salée. On en parle dans une minute avec Philippe Crevel, le directeur du Cercle de l'Épargne. A tout de suite.
5h, 6h30.
Europe Matin.
Merci de passer la matinée avec nous sur Europe 1. Il est 6h12. Votre invité, Julien, est économiste et directeur du Cercle de l'Épargne.
Bonjour Philippe Crevel.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être en direct avec nous. C'est ce matin que l'INSEE va dévoiler son estimation de l'inflation pour le mois de mars. Elle avait été de 3,6% en février et devrait là dépasser la barre des 4% en raison notamment de la guerre en Ukraine. Est-ce que ça commence à devenir inquiétant, Philippe Crevel ?
Alors évidemment qu'une inflation élevée impose des problèmes pour les Français, pour les ménages. On le voit pour certains ménages modestes, pour payer les dépenses de carburant. C'est le pouvoir d'achat qui est attaqué. C'est vrai qu'en France, on est pour le moment un petit peu donc préservé. En Espagne, on est à près de 10% d'inflation. Oui. En Allemagne, on se rapproche des 8%, mais on atteint à 4% une zone, on va dire, un petit peu de difficulté.
Et ça va durer combien de temps ? Est-ce que vous avez des estimations ?
Alors, l'évolution de l'inflation dépend évidemment du conflit ukrainien, de nos relations avec la Russie. Plus la guerre sera longue, plus elle sera difficile et on ne le souhaite pas, plus l'inflation risque de durer longtemps. Si on arrive à une négociation, à une sortie de crise rapide, cela pourrait permettre des détentes sur le prix des matières premières, sur l'énergie. Puis ça dépend également de nos comportements, si on fait des économies, si par ailleurs on trouve de nouveaux fournisseurs pour le gaz, pour l'électricité, également pour un certain nombre de biens intermédiaires, comme le gaz néon pour tout ce qui est micro processeurs, comme pour des métaux rares nécessaires pour le développement des énergies renouvelables.
En tout cas, cette envolée des prix, principalement, vous l'avez dit, de l'énergie et des produits alimentaires, plombe le moral des ménages français. Il s'est effondré ce mois-ci, selon les données de l'INSEE. Or, le moral des ménages, c'est le moteur de la consommation, qui elle-même est le moteur de la croissance. Ça veut dire qu'on va être bien en deçà des 4% espérés par le gouvernement en 2022 ?
Oui, il y aura forcément un effet sur la consommation, comme vous l'avez dit, et donc sur la croissance. La consommation, ça représente près de 60% de notre PIB, et donc il y aura évidemment un effet. On va s'acheminer certainement à une croissance qui pourrait tourner à 1 ou 2%, c'est probable. On parle de stagflation, ce qu'on a connu dans les années 70-80 au moment des premiers et seconds chocs pétroliers.
Qu'est-ce que ça veut dire la stagflation ?
C'est donc la cohabitation d'une croissance faible et d'une inflation élevée. L'inflation élevée érode le pouvoir d'achat, érode la confiance, on consomme moins, les entreprises, face à des incertitudes, peuvent moins investir également, et donc cela pénalise l'activité. Et puis l'inflation ronge vraiment la confiance dans le pays en exacerbant les tensions sociales.
Et face à tous ces risques, la Banque Centrale Européenne n'a toujours pas relevé ses taux directeurs, contrairement à la Fed, son homologue américaine. Comment vous expliquez ce retard à l'allumage ?
La Banque Centrale Européenne donc suit évidemment avec une extrême attention l'évolution des prix et elle considère pour le moment que relever ses taux directeurs pourrait donc accroître la tendance récessionniste, freiner donc l'activité en pénalisant l'investissement, en pénalisant les crédits à la consommation et donc on renforcerait donc la diminution de la croissance sans pour autant juguler l'inflation parce que l'inflation c'est lié donc au prix des matières premières, c'est pas lié à une surdemande, c'est lié au fait que on a peur des pénuries en matière de gaz et de pétrole, on a peur que les embargos donc s'appliquent et donc on aurait de toute façon ces augmentations de prix. Donc elle se dit il faut attendre un petit peu avant de sortir l'arme ultime qui est donc la hausse des taux d'intérêt.
Alors vous l'avez dit, l'inflation est beaucoup plus forte chez nos voisins. Elle atteint ce mois-ci près de 10% en Espagne, un record depuis 37 ans, 8,3% en Belgique, 7,3% en Allemagne. Là aussi, c'est du jamais vu depuis la réunification. Comment expliquez-vous que la hausse des prix soit comparativement moins forte chez nous en France ?
Alors, il y a deux grandes raisons. La première raison, c'est qu'on a une inflation qui a un petit peu été déguisée, masquée, parce que le gouvernement a pris des mesures pour éviter une hausse des prix de l'énergie, que ce soit l'électricité, le gaz, donc et l'électricité, le gaz et le pétrole.
Le bouclier tarifaire.
Le bouclier tarifaire, il y a eu la prime inflation qui a permis également, mais là c'est pour le pouvoir d'achat. Mais donc cela limite l'inflation donc réelle. Or, nos voisins n'ont pas eu forcément les mêmes politiques, et donc ça explique un décalage de 1 à 2 points d'inflation entre nous et nos partenaires. Et puis, il y a une deuxième raison, c'est la présence du parc nucléaire, de l'électricité nucléaire en France, qui fait qu'on a une électricité un peu moins chère que nos voisins, et qui est moins dépendante du pétrole et du gaz russe.
Alors, ce bouclier tarifaire qu'on évoquait à l'instant, il est loin d'être gratuit, hein, plus de 20 milliards d'euros, et si ça pèse fortement sur les finances publiques. Est-ce qu'il faut s'inquiéter pour notre dette finale? Philippe Crevel, a fortiori si les taux d'intérêt venaient à remonter.
C'est évident que aujourd'hui l'inflation, on la fait passer à travers le déficit public et notre dette qui est élevée, qui dépasse 112% du PIB, et les taux d'intérêt ont commencé légèrement à remonter, même si cela reste relativement faible. Donc dans l'avenir, c'est vrai qu'on va augmenter le coût de cette dette et ça pourra peser donc sur notre activité également parce que l'État devra rembourser des sommes croissantes et puis il y aura des tensions au sein de l'Union européenne entre les pays qui ont fait face de manière, on va dire, vertueuse et courageuse et d'autres qui ont été un peu plus laxistes comme nous. Il y a eu un choix qui a été fait au niveau politique de privilégier pour le moment le pouvoir d'achat des Français, hein, relativement, et donc, mais on pourra le payer demain ou après-demain à travers donc une dette plus importante.
Et nous, Philippe Crevel, que doit-on faire pour protéger notre épargne de l'inflation ?
Alors, le conseil, c'est évidemment de ne pas laisser l'argent dormir sur ses comptes courants. Les Français disposent aujourd'hui d'une somme de 500 milliards d'euros sur leurs comptes courants. C'est un record. C'est lié à la crise sanitaire où on a beaucoup épargné, mais on a mis beaucoup en liquidité. Et donc, il faut éviter évidemment de laisser cet argent dormir. Il vaut mieux même 1% du livret A que zéro. Et c'est vrai que le livret A ne permet pas de compenser une inflation de 4 ou de 5%. Pour avoir, on va dire, pour éviter la perte lié à l'inflation, il faut aller sur des placements à risque. Et donc, il faut évidemment avoir l'appétence, la propension et la possibilité de le faire. Il faut aller plutôt sur des placements actions qui résistent mieux, car les entreprises peuvent répercuter une partie ou la totalité des hausses de prix. Et donc, les actions reflètent ce comportement, cette possibilité.
Et que faire quand on n'a pas d'épargne ni de revenus conséquents, qu'on a des revenus modestes? Ça veut dire qu'on est condamné à voir son niveau de vie baisser dans les mois à venir?
Si on n'a pas d'épargne, si donc on n'a pas la possibilité d'avoir un revenu qui suit l'inflation, c'est évidemment une perte de pouvoir d'achat. Et donc les autorités européennes ont indiqué que certainement au jour de cette année, pour les habitants de la zone euro, il y aura une baisse du pouvoir d'achat, sachant qu'on avait eu des gains les années précédentes. Donc c'est vrai que c'est un changement de situation économique et que ça peut avoir pour des revenus modestes, des personnes à revenus modestes, des conséquences assez délicates, difficiles.
Merci beaucoup Philippe Crevel, directeur du Cercle de l'Épargne, d'avoir répondu à nos questions ce matin, de nous avoir éclairé sur cette inflation galopante. Excellente journée à vous et très bonne journée sur Europe 1.
Europe Matin.
Omblin Roche et Julien Pierce.
6h20, les titres de l'actualité, Alban Le Prince.
Avec cet appel à la vigilance ce matin, si vous avez mangé des pizzas Buitoni ces dernières semaines, les autorités sanitaires mettent en relation leur consommation avec plusieurs cas graves de contamination par la bactérie Escherichia coli chez des enfants. 2 sont morts, mais le lien n'est pas confirmé à ce stade. 75 cas sont en cours d'investigation. La guerre en Ukraine. Les conseillers de Vladimir Poutine ont peur de lui dire la vérité sur sa stratégie de guerre défaillante. C'est ce qu'affirme ce matin le directeur des renseignements britanniques. Sur le terrain, Moscou annonce un cessez-le-feu à Mariupol à partir de ce matin pour évacuer des civils. À l'Élysée, on préfère rester prudent.
On termine avec votre partition, Omblin, consacrée à un artiste américain, auteur, compositeur, chanteur, mais surtout pianiste virtuose. Il s'appelle Bruce Hornsby.
Oui, son nom, Julien, ne vous dit peut-être rien, et pourtant, dès les premières notes de piano, je parie qu'un certain nombre d'entre vous va s'exclamer, mais c'est bien sûr.
Mais c'est bien sûr.
Introduction magistrale qui a rendu son morceau The Way It Is légendaire dès 1986 et qui depuis ne cesse d'influencer d'autres artistes.
Alors qui est-il ce Bruce Hornsby ?
Un enfant de la balle qui grandit en Virginie dans une famille de musiciens, bâti comme une armoire à glace, pianiste surdoué, influencé par Keith Jarrett. Il fréquente l'université de Miami où il croise l'un des plus grands bassistes de jazz, Jaco Pastorius, qui enseigne à la Frost School of Music, diplôme en poche. À la fin des années 70, Bruce Hornsby hésite entre une carrière de jazzman et de rocker, c'est finalement le rock qui l'emporte et il va tenter sa chance à Los Angeles.
Le chemin va être long, les portes des maisons de disques devant lui se ferment les unes après les autres.
Ses chansons n'attirent pas l'oreille, pas assez commerciales ou à contre-courant. En attendant patiemment son tour, Bruce Hornsby compose pour le cinéma et intègre le groupe Grateful Dead. Il finit par rentrer en Virginie, bien décidé à enregistrer sa musique comme il l'entend.
Une intro, 2 solos de piano improvisés et des paroles engagées, Bruce Hornsby trouve enfin avec The Way It Is la formule d'un immense succès pop.
Un merveilleux accident, dira-t-il plus tard, et grâce à un coup de pouce inespéré de la radio anglaise BBC Radio 1 qui, sous le charme, passe le titre en boucle.
Bruce Hornsby a donc attendu d'avoir 32 ans pour remporter aux États-Unis le Grammy Award du meilleur nouvel artiste.
Oui, il se hisse progressivement au premier rang des charts pop en Europe et en Amérique. La chanson The Way It Is fait des petits. La boucle de piano est piquée par Tupac pour construire son succès Changes. Et puis, inattendu, Jean-Jacques Goldman s'en inspire pour introduire Né en 17 à Leidenstadt. Jean-Jacques Goldman qui avait d'ailleurs contacté Bruce Hornsby pour faire les arrangements du morceau. Et là, ça ne s'est pas fait.
Alors le message que véhicule la chanson explique aussi l'intérêt qu'elle suscite.
Oui, elle prend la forme d'un témoignage sur les inégalités raciales dont le musicien a été témoin chez lui en Virginie, la ségrégation subie par les Afro-Américains et la nécessité de résister contre l'oppression.
Just the way it is. Some things will never change. That's just the way it is. Ah, but don't you.
just the way it is. Some things will never change. That's just the way it is. Oh, but don't you believe it?
Son groupe The Range avec The Way It Is, la chanson donne son nom à l'album, album sorti il y a 36 ans.
Chut, Omblin, laissez, la musique c'est bien ça.
Ah mais moi j'ai des ordres dans l'oreille droite.
On se le remettra dans la journée.
Avec grand plaisir.
Merci beaucoup Omblin. Bon, vous l'avez compris, Dimitri Pavlenko est déjà là. La matinale se poursuit dans un instant, à tout de suite.